France Musique. Les grands entretiens. France Musique. Benjamin François.
Je suis ton copain, né à Zwolle dans les années 44. Je joue l'orgue, je joue le clavecin, je suis chef d'orchestre. J'aime de travailler avec le chœur. Je suis encore prof à Leiden pour musicologie, de musique baroque. Donc j'ai fait quelque chose.
Ton Kopman, vous terminez vos études en 1968 avec un premier prix de basse continue au concours international de clavecin de Bruges. 1968, je n'ai pas connu cette époque, mais quand on voit les photos de l'époque, on vous voit avec des cheveux longs, on vous voit avec des pantalons en pâte d'éléphant, avec des cols de chemise en pelle à tarte. C'est toute une époque qui paraît aujourd'hui un peu mythique. Évidemment, Gustav Leonhardt était la génération un tout petit peu d'avant. Donc lui, il n'était pas en patte d'éléphant, ni en... Et je pense que tous vos amis, que ce soit Philippe Hervègue, René Jacob, vous êtes tous à peu près à 2-3 ans.
On se connaît
bien.
Vous
êtes tous pareils, voilà. Ouais. Et vous étiez tous habillés pareils. Jordi Savall, c'est pareil, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce que vous dites de cette époque, aujourd'hui, qui est en lien aussi avec cette formidable redécouverte de la musique ancienne? C'était quelque chose d'un peu générationnel chez tous ces musiciens?
Oui, parce que... On était contre tout. On était surtout contre l'Amérique avec la guerre qu'ils ont fait. Mais c'était pas nécessaire d'être bien habillé aussi pour aller dans un coiffeur. Moi, j'étais pas contre, mais ça coûte de l'argent et je peux acheter des livres pour ça. Donc, une fois par an, j'étais allé dans l'école pour les coiffeurs. Ça coûte rien. Et j'ai dû attendre 2 heures quelquefois. Mais ils ont coupé. C'était bien pour un an. Et,
c'était parti pour un an, voilà.
Oui. À un moment donné, l'impresario en Hollande a dit à ma femme, tu dois faire quelque chose, parce qu'on peut pas vendre quelqu'un comme ça. Il doit être beaucoup mieux, habillé, les cheveux, etc., etc. Fais quelque chose, parce que je peux pas aider.
La barbe aussi, ça laissait un peu à désirer, hein, c'était long.
Ah oui, oui. Et je dois dire, j'étais pas, dans ce moment-là, quelqu'un qui a protesté contre tout, mais quand même, avec le musica da camera, on était contre la guerre de l'Amérique. On a fait des jam sessions avec des musiciens de jazz. J'ai quand même improvisé beaucoup. C'était, nous sommes tous les frères et toutes les musiques sont bien.
Qu'est-ce que pensaient vos professeurs de cette génération quand vous arriviez comme ça avec Leonhardt? Il peut y avoir un grand fossé entre le maître et l'élève.
Oui, parce que Leonhardt est venu dans les leçons avec une cravate. Et moi, j'étais catholique, ça, c'était pas trop bien pour lui. Et à côté de ça, encore habillé comme ça, avec un barbe comme ça. Et je me souviens bien, c'était pas Léonard, mais avec Philippe Hervègue, je pense 73, on a fait le Saint-Jean ensemble, à Gand, Amsterdam. Et à Gand, dans le critique de Saint-Jean, c'était écrit « c'est gueux ». Parce que tout le monde était comme ça, aussi Guy, Philippe, pas bien habillé, il était quand même un peu meilleur habillé que nous. Et René Jacobs qui a chanté là, on a joué en plein air, on a joué dans le café littéraire, parce que tout le monde était comme ça. Et c'était bien, je dois dire, le Saint-Jean à Amsterdam, à l'église, était quand même une odeur un peu spéciale. Une grande partie du public a fumé.
On ne dit pas que les coffee shops sont autorisés à Amsterdam.
C'est pas encore les coffee shops, mais à côté, il était beaucoup. Les gens étaient capables d'acheter des haches et je ne sais pas quoi.
C'était un peu hippie sur les bords.
Oui, moi, j'ai aucune fois utilisé ça. J'ai vu aussi le moment où on a parlé de musique, on a écouté l'enregistrement de Harlan Coe ou de Leonhardt. Et on se... Tout l'on est tombé dans une autre situation. C'était les années 70 et oui, c'était un moment, et encore une partie du public qui était là, s'ils sont encore vivants, arrive encore dans le concert avec la musique ancienne. Ils sont devenus fans sans savoir ces musiques anciennes et ils ont dit « Ah, ça me plaît » ou « Les jeunes qui font ça, ça me plaît ». Maintenant, ils ont leur Volvo et pas de bicyclette et ils arrivent encore au concert.
C'est important ce que vous dites, Tone Kopman. J'ai l'impression que cette notion de plaisir peut-être vous distingue de la génération d'avant. Vous avez mis vraiment en avant cette notion de plaisir dans votre manière de redécouvrir ces partitions, de jouer. Quand on vous voit diriger, on vous sent totalement pénétré de joie. C'est important pour vous cette dimension, j'ai l'impression.
Oui, et c'est drôle. Léonard a dit, pour un musicien professionnel, il n'y a pas la joie. On fait son travail. Et je sais, c'est pas vrai pour lui, parce qu'au moment qu'il a joué, il aimait la musique. Vraiment, il était vraiment qu'il aime.
Une joie intérieure.
Oh, oui, mais pour démontrer, non. Et pour moi, ça peut être mon père, le musicien de jazz. Je me souviens encore, dans les photos qui sont dans ma tête, lui qui joue avec une souris, qui est aussi, au moment donné, pendant une pièce, il a ajouté les pièces de bois, les maillots, anneaux. Et il était là, il était dans son main de nouveau, il a continué. C'était un truc de lui et tout le monde là.
Quelles étaient, à l'époque, les locomotives du mouvement baroque? J'ai entendu parler d'un certain Pascal Rinders, qui était le moteur du Holland Festival, le festival de musique ancienne d'Utrecht, le lointain prédécesseur de Xavier Van Damme aujourd'hui. Yeah. On est dans les années 70, parce que vous nous avez parlé aussi de votre musica da camera. Où faisiez-vous vos premiers concerts?
Pascal Rinders, il était dans ce temps-là le directeur de Bachvereniging, la société Bach en Hollande. Et c'était dans ce moment-là encore un grand chœur avec les instruments modernes. Et c'est lui qui aidait pour faire cette Saint-Jean à Amsterdam. C'est 73, le Holland Festival, le festival d'Hollande, avec Frans de Ruiter. C'est important parce qu'ils ont dit, OK, maintenant c'est temps que tu fais quelque chose dans le festival d'Hollande.
Tone Kopman, votre premier examen d'orgue, c'était en 1969?
Le premier examen pour l'orgue, c'était, je pense, 69. 70, c'était la musicologie. 71 pour clavecin. Et après, j'ai fait deux fois une prix d'excellence. Dans ce cas, on donne 2-3 ans pour étudier. Et après ça, c'était le premier prix pour Bosconu. Et là, c'était les deux Kuykens qui ont joué avec moi. Parce que c'est eux qui ont fait une canzona di Frescobaldi. Et moi, j'aimais beaucoup jouer avec eux. Et je pense que j'ai joué qu'une fois dans ma vie avec Frans Bruggen. Parce que c'est un autre groupe. Et si on n'est pas dans les deux groupes qui étaient là, on commence de créer l'ensemble moi-même. Et j'ai commencé de faire de plus en plus. Et à un moment donné, c'était Marie-Léonard qui a joué avec nous. Ça, c'était drôle de demander la femme de ton prof, est-ce que vous avez le temps de jouer avec nous?
Et vous avez fait beaucoup de concerts avec Marie-Léonard.
Ah oui, 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 oui. Et dans ce moment-là, normalement, Léonard, si le concert est à Amsterdam, il était libre, il est venu au concert et il a écouté, il a demandé des questions, il a aussi dit qu'est-ce qu'il a trouvé. Et oui, j'ai commencé avec Musica da Camera, avec Musica Antiqua, le premier orchestre baroque de moi, où Reinhard Goebel a joué deuxième violon. C'est bien. Et après, comme maintenant, l'Ensemble Orchestra et chœur.
Justement, Tone Kopman, comment s'est passé le passage de l'un à l'autre? Musica da Camera, ensuite l'Ensemble Baroque d'Amsterdam, Mais entre, il y a eu aussi un autre ensemble. Quelle a été la raison pour laquelle vous avez rebondi de l'un à l'autre ?
Moi, j'ai trouvé avec Musica Amsterdam, sur le premier orchestre baroque de moi, j'ai trouvé il y a des meilleurs ensembles dans le monde techniquement. Et j'ai trouvé en Angleterre, on joue meilleur le violon qu'en Hollande. Michel Henry, le deuxième hautbois, était déjà chez nous. Ça marchait bien ensemble. Quand on voit, c'était les Hollandais. Et j'ai trouvé, maintenant, je dois améliorer ça. J'ai cherché, je suis allé au BBC pour écouter les jeunes anglais et j'ai trouvé Monica Haggart. Et avec Monica Haggart, on a créé le Amsterdam Rock Orchestra. Le soir, on a dîné dans un bon restaurant avec un très bon vin. Et maintenant, l'Amsterdam Rock Orchestra existe pour 45 ans. Et dans ce moment-là, c'était un mélange entre la Hollande, France et Angleterre.
Avec les vents qui venaient plutôt de la France, Michel Henry, vous l'avez dit.
Aussi, le choriste de l'Orchestre National de France,
Michel Garcin.
Excellent joueur. Pour la trompette, ils n'étaient pas chez nous. On a eu déjà au début les Anglais pour ça. Mais le timbaliste, il est encore là, Luc Nachtegaal. Il est encore dans cet orchestre. Il a joué avec moi plus que 50 ans.
Puis à un moment aussi, vous avez eu des projets communs avec Philippe Hervègue, lui, chef de chœur du Collégium Vocal de Gand, et vous, pour la partie musicale et même des concerts où vous dirigiez alternativement.
Oui, c'est vrai.
C'est original, ça.
Oui, j'ai rencontré Philippe par hasard, parce qu'on a joué dans le bar littéraire à Amsterdam, et Philippe est venu avec sa copine pour écouter ça. Et on a parlé un tout petit peu, et il dit, moi j'ai un petit cœur, les étudiants, mais si tu as le temps, ça sera fantastique de faire quelque chose ensemble. Et un demi-an après, on a travaillé ensemble, première fois, c'était pas un petit cœur, c'était un cœur fantastique. Donc on a travaillé beaucoup ensemble. Philippe a aussi eu quelques leçons de clavecin de moi. Dans ce moment-là où j'ai rencontré, il était encore étudiant, psychiatrie, et on a parlé à un moment ensemble, parce qu'il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je continue les deux ou je viens professionnel? Est-ce que je suis bien pour ça? Je dis, oui, tu es excellent, tu es un très bon musicien. Et il a suivi mon opinion et depuis ce moment-là, il a encore utilisé quelquefois être médecin pour donner la pilule, la fille du chœur et aussi de l'orchestre. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité.
Pas mal, pas mal. Ça, parce que, personne ne l'a encore dit en interview, Son Kopman. Bravo.
Parce que dans ce moment-là, en Belgique, c'est pas autorisé.
Vous voulez dire qu'il pouvait faire des ordonnances.
Yeah, oui. Yeah.
Et il y avait aussi un certain René Jacobs qui chantait altos dans certains de vos concerts.
Oui, il était encore prof pour les langues grecques et latin. J'ai un très bon souvenir de lui comme contre-ténor. Il y a les gens qui n'aiment pas du tout. Et moi, que j'ai trouvé, il était quelqu'un très musicien. Il a chanté tout le temps avec son cœur. Et dans ce moment-là, il a eu une très belle voix. Joué avec Christy avant. On a encore fait quelques fois à Paris un récital, je me souviens, à deux altos, très peu de vibrato, c'était joli.
Kopman, il faut parler aussi de la rencontre de votre épouse, Tini Matto, qui était aussi une claveciniste. Ce n'est pas un hasard.
J'étais invité en Allemagne, à côté de Bâle, pour un festival. C'était un festival de musique ancienne, Staufen. Et j'étais invité pour jouer avec deux femmes, les deux concerts pour trois clavecins, et de faire un petit cours, masterclass. Et pour le masterclass, c'était qu'une élève, c'était Tini. Elle était venue là avec son petit ami. So, c'était pas commencé directement, mais assez vite après. Et elle a eu des leçons de clavecin avant moi pour un an au conservatoire. Et elle est devenue élève de moi. Elle a fait son examen, 6 mois. So, normalement, le prof fait un mariage avec... ou habite ensemble avec son élève qui était 30 ans moins. Nous sommes 5 ans différents, ça va encore. Et nous sommes commencés à jouer ensemble dans les enregistrements que j'ai faits dans cette année-là. Il est devenu de plus en plus professionnel. Il a travaillé pour Philips, il a travaillé pour la radio.
Elle a fait la direction artistique de vos disques.
Oui, elle a fait avec moi plus que 400 disques avec Tini. C'était fantastique.
Alors justement, Todd Kopman, vous avez prononcé ce mot d'enregistrement, vous avez fait des centaines de disques. Qu'est-ce que signifie pour vous l'enregistrement, le disque, par rapport au concert?
Yeah. Au concert, have fun, amusez, s'il vous plaît. Parce qu'au concert, si on voit les musiciens qui sont que des professionnalistes, c'est affreux. Au concert, on doit s'amuser, mais quand même, on a besoin aussi d'une précision. Et si je pense, pour les cantates de Bach, c'est un grand travail, quand même. C'est très difficile pour tout le monde. Mais finalement, le rôle de chef, ce n'est pas uniquement que tout est ensemble et contrôler les choses, avec Tini dans ce cas, mais aussi de contrôler que l'atmosphère est bien. Parce que finalement, je déteste un disque qui est 100% parfait, mais qui ne donne aucune émotion. C'est un document du temps. Et je peux dire, avec l'enregistrement de nous, tout est fait dans le même moment. Quelquefois, je n'ai pas fait un air dans 75 minutes, parce que c'était trop compliqué. On a utilisé une autre demi-heure. Je dis, OK, on va trouver le temps, parce que ça doit être bon. Et pas uniquement toutes les notes bonnes, mais une émotion et un amour pour la musique de Bach. Une grande admiration pour Bach.
Todd Kopman, lorsque vous enregistrez un disque, il y a peut-être aussi un sens patrimonial à ce que vous faites. Quand vous enregistrez l'opéra Omnia de Buxtehude, vous étiez le premier à enregistrer certaines cantates de Buxtehude qui n'avaient jamais été gravées auparavant.
Oui, moi je suis collectionniste, j'aime le complet. Ça c'est une chose qui est restée aussi pour le disque. Je dois dire, pour Buxtehude, c'était pas tellement facile de convaincre Erato, mais aussi Vesotche Rundfunk pour payer pour l'enregistrement de ça. Parce qu'on dit, oui, est-ce qu'on peut vendre ça? Mais quand même, c'est un bel enregistrement. Moi, je suis heureux et encore, on entend aussi Bruce Dickey qui a joué le premier, connaît un bouquin dans les deux enregistrements. Il dit, tu sais, dans cet enregistrement, c'était beaucoup plus facile parce que c'était plus bas. Chez Buxtehude, 465, pour le diapason, c'est très haut. Pour les cornistes, c'était difficile. Pour les corps de chasse, c'était compliqué. Pour tout le monde, c'était difficile. Et tout était bien. Et finalement, c'était que un take, pas plus. Et on a enregistré peut-être 2 heures, beaucoup plus que prévu. Et d'un moment donné, c'était un enregistrement qui se dit, ah, c'est beau. Et mon épouse a dit, ça c'est bien. Parfait.
On prend.
On prend. Basta. Mais naturellement, pour enregistrer les choses comme ça, ça c'était très très dur. Et c'était le moment où Bruce a dit, OK, maintenant, je peux plus jouer. Et l'autre, le corniste a dit, je peux plus, c'est trop. J'ai dit, encore une fois, une dernière fois, s'il vous plaît. Et la dernière fois, c'est sur le disque. On entend, ah! Et c'était bien. Et pour les chanteurs, beaucoup de cantates à apprendre, parce qu'on ne connaît pas, dans le diapason si haut. Pour les sopranos, c'était normal de chanter jusqu'au do 415. Ça veut dire si bémol pour eux ou si naturel. Ça veut dire encore tout petit peu plus haut. Ça, c'était aussi quelquefois en pleurant. Je dis non, je peux plus. C'est trop haut. Si tu fais une erreur, on doit faire ça agréablement à 415 ou plus
Donc,
bas.
À l'époque, c'était des voix d'enfant, c'est clair.
Yeah. Mais finalement, la psychologie à m'aider. Et aussi, moi, j'aime d'être musicien avec les musiciens. Moi, je prends le risque. Je joue et j'improvise avec Mike Fentros, grand musicien aussi. Et quelquefois, je fais quelque chose pas bien et tu me dis, je dois refaire ça. Et moi, je suis pas un policier avec un crayon rouge pour dire, erreur. J'essaie d'avoir le maximum, mais aussi le maximum de musique. Parce que pour moi, Buxtehude, un grand compositeur, et encore je trouve triste qu'il n'ait pas venu avec l'enregistrement quelqu'un plus connu que maintenant, mais il reste encore quelques siècles pour faire ça.
Ça viendra. Un extrait de la cantate Nun danket alle Gott, BuxWW 79 de Dietrich Buxtehude, par l'orchestre et le chœur baroque d'Amsterdam, Bruce Dickey, cornet à bouquin, et Todd Kopman, à la direction. Merci à Romain Lucuyens, Jean-Louis Deloncle, Flora Stanadel et Gilles Blanchard à la réalisation. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission où vous voulez, quand vous voulez, sur francemusique.fr. Et je vous dis à demain pour le troisième épisode.
À réécouter sur francemusique.fr.